Sans doute les noms sont des dessinateurs fantaisistes, nous donnant des gens et des pays, des croquis si peu ressemblants, que nous éprouvons souvent une sorte de stupeur quand nous avons devant nous, au lieu du monde imaginé, le monde visible, qui d'ailleurs n'est pas le monde vrai, nos sens ne possédant pas beaucoup plus le don de la ressemblance que l'imagination, si bien que les dessins enfin approximatifs qu'on peut obtenir de la réalité sont au moins aussi différents du monde vu que celui-ci l'était du monde imaginé. Mais pour Bergotte, la gêne du nom préalable n'était rien auprès de celle que me causait l'œuvre connue, à laquelle j'étais obligée d'attacher, comme après un ballon, l'homme à barbiche, sans savoir si elle garderait la force de s'élever. Il semblait bien pourtant que ce fût lui qui eût écrit les livres que j'avais tant aimés, car Madame Swann ayant cru devoir lui dire mon goût pour l'un d'eux, il ne montra nul étonnement qu'elle en eût fait part à lui plutôt qu'à un autre convive, et ne sembla pas voir là l'effet d'une méprise. Mais, emplissant la redingote qu'il avait mise en l'honneur de tous ses invités, d'un corps avide du déjeuner prochain, ayant son attention occupée d'autres réalités importantes, ce ne fut que comme un épisode révolu de sa vie antérieure, et comme si on avait fait allusion à un costume du duc de Guise qui lui mit une certaine année à un bal costumé, qu'il sourit en se reportant à l'idée de ses livres, lesquels aussitôt déclinèrent pour moi, entraînant dans leur chute toute la valeur du beau, de l'univers, de la vie, jusqu'à n'avoir été que quelques médiocres divertissements d'homme à barbiche. Je me disais qu'il avait dû s'y appliquer, mais que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières, il se fût à la place livré avec succès au commerce des perles. Son œuvre ne me semblait plus aussi inévitable. Et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui, ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte, si les différences entre les œuvres ne seraient pas le résultat du travail, plutôt que l'expression d'une différence radicale d'essence entre les diverses personnalités. Cependant, on était passé à table. À côté de mon assiette, je trouvais un œillet dont la tige était enveloppée dans du papier d'argent. Il m'embarrassa moins que n'avait fait l'enveloppe remise dans l'antichambre et que j'avais complètement oubliée. L'usage, pourtant aussi nouveau pour moi, me parut plus intelligible quand je vis tous les convives masculins s'emparer d'un œillet semblable qui accompagnait leur couvert et l'introduire dans la boutonnière de leur redingote. Je fis comme eux avec cet air naturel d'un libre penseur dans une église, lequel ne connaît pas la messe, mais se lève quand tout le monde se lève et se met à genoux un peu après que tout le monde s'est mis à genoux. Un autre usage inconnu et moins éphémère me déplut davantage. De l'autre côté de mon assiette, il y en avait une plus petite, remplie d'une matière noirâtre que je ne savais pas être du caviar. J'étais ignorant de ce qu'il fallait en faire, mais résolu à n'en pas manger. Bergotte n'était pas placé loin de moi, j'entendais parfaitement ses paroles. Je compris alors l'impression de M. de Norpois. Il avait en effet un organe bizarre. Rien n'altère autant les qualités matérielles de la voix que de contenir de la pensée. La sonorité des diphtongues, l'énergie des labiales en sont influencées. La diction l'est aussi. La sienne me semblait entièrement différente de sa manière d'écrire, et même les choses qu'il disait de celles qui remplissent ses ouvrages. Mais la voix sort d'un masque sous lequel elle ne suffit pas à nous faire reconnaître d'abord un visage que nous avons vu à découvert dans le style. Dans certains passages de la conversation où Bergotte avait l'habitude de se mettre à parler d'une façon qui ne paraissait pas affectée et déplaisante qu'à M. de Norpois, j'ai été long à découvrir une exacte correspondance avec les parties de ses livres où sa forme devenait si poétique et musicale. Alors il voyait dans ce qu'il disait une beauté plastique indépendante de la signification des phrases et, comme la parole humaine est en rapport avec l'âme, mais sans l'exprimer comme le fait le style, Bergotte avait l'air de parler presque à contresens, psalmodiant certains mots et, s'il poursuivait au-dessous d'eux une seule image, les filant sans intervalle, comme un même son, avec une fatigante monotonie. de sorte qu'un débit prétentieux, emphatique et monotone était le signe de la qualité esthétique de ses propos et l'effet dans sa conversation de ce même pouvoir qui produisait dans ses livres la suite des images et l'harmonie. J'avais eu d'autant plus de peine à m'en apercevoir d'abord que ce qu'il disait à ces moments-là, précisément parce que c'était vraiment de Bergotte, n'avait pas l'air d'être du Bergotte. C'était un foisonnement d'idées précises, non incluses dans ce genre Bergotte que beaucoup de chroniqueurs s'étaient appropriés. Et cette dissemblance était probablement, vue d'une façon trouble à travers la conversation comme une image derrière un verre fumé, un autre aspect de ce fait que, quand on lisait une page de Bergotte, elle n'était jamais ce qu'aurait écrit n'importe lequel de ces plats imitateurs qui, pourtant, dans le journal et dans le livre, ornaient leur prose de tant d'images et de pensées à la Bergotte. Cette différence dans le style venait de ce que le Bergotte était avant tout quelque élément précieux et vrai, caché au cœur de chaque chose, puis extrait d'elle par ce grand écrivain grâce à son génie, extraction qui était le but du doux chantre et non pas de faire du Bergotte. À vrai dire, il en faisait malgré lui puisqu'il était Bergotte et qu'en ce sens, chaque nouvelle beauté de son œuvre était la petite quantité de Bergotte enfouie dans une chose et qu'il en avait tirée. Mais si par là chacune de ces beautés était apparentée avec les autres et reconnaissable, elle restait cependant particulière, comme la découverte qu'il avait mise à jour. Nouvelle, par conséquent différente de ce qu'on appelait le genre Bergotte, qui était une vague synthèse des Bergottes déjà trouvées et rédigées par lui, lesquelles ne permettaient nullement à des hommes sans génie d'augurer de ce qu'ils découvriraient ailleurs. Il en est ainsi pour tous les grands écrivains, la beauté de leur phrase est imprévisible, comme est celle d'une femme qu'on ne connaît pas encore. Elle est création puisqu'elle s'applique à un objet extérieur auquel ils pensent, et non à soi, et qu'ils n'ont pas encore exprimé. Un auteur de mémoire d'aujourd'hui, voulant sans trop en avoir l'air faire du Saint-Simon, pourra à la rigueur écrire la première ligne du portrait de Villars. C'était un assez grand homme, brun, avec une physionomie vive, ouverte, sortante. Mais quel déterminisme pourra lui faire trouver la seconde ligne qui commence par « est véritablement un peu folle ». La vraie variété dans cette plénitude d'éléments réels et inattendus, dans le rameau chargé de fleurs bleues qui s'élance contre toute attente de la haie printanière qui semblait déjà comble, tandis que l'imitation purement formelle de la variété, et on pourrait raisonner de même pour toutes les autres qualités du style, n'est que vide et uniformité, c'est-à-dire ce qui est le plus opposé à la variété, et ne peut chez les imitateurs en donner l'illusion et en rappeler le souvenir que pour celui qui ne l'a pas comprise chez les maîtres. Aussi, de même que la diction de Bergotte eût sans doute charmé si lui-même n'avait été que quelque amateur récitant du prétendu Bergotte, au lieu qu'elle était liée à la pensée de Bergotte en travail et en action par des rapports vitaux que l'oreille ne dégageait pas immédiatement, de même, c'était parce que Bergotte appliquait cette pensée avec précision à la réalité qui lui plaisait que son langage avait quelque chose de positif, de trop nourrissant, qui décevait ceux qui s'attendaient à l'entendre parler seulement de l'éternel torrent des apparences et des mystérieux frissons de la beauté. Enfin, la qualité toujours rare et neuve de ce qu'il écrivait se traduisait dans sa conversation par une façon si subtile d'aborder une question, en négligeant tous ses aspects déjà connus, qu'il avait l'air de la prendre par un petit côté, d'être dans le faux, de faire du paradoxe, et qu'ainsi ses idées semblaient le plus souvent confuses, chacun appelant idées claires celles qui sont au même degré de confusion que les siennes propres. D'ailleurs, toute nouveauté ayant pour condition l'élimination préalable du poncif auquel nous étions habitués et qui nous semblait la réalité même, toute conversation neuve, aussi bien que toute peinture, toute musique originale, paraîtra toujours alambiquée et fatigante. Elle repose sur des figures auxquelles nous ne sommes pas accoutumés. Le causeur nous paraît ne parler que par métaphore, ce qui lasse et donne l'impression d'un manque de vérité. Au fond, les anciennes formes de langage avaient été autrefois, elles aussi, des images difficiles à suivre, quand l'auditeur ne connaissait pas encore l'univers qu'elle peignait. Mais depuis longtemps, on se figure que c'était l'univers réel, on se repose sur lui. Aussi, quand Bergotte, ce qui semble pourtant bien simple aujourd'hui, disait de Cottard que c'était un Ludion qui cherchait son équilibre, et de Brichot que, plus encore qu'à Madame Swann, le soin de sa coiffure lui donnait de la peine, parce que, doublement préoccupé de son profil et de sa réputation, il fallait à tout moment que l'ordonnance de sa chevelure lui donnât l'air à la fois d'un lion et d'un philosophe, on éprouvait vite de la fatigue et on eût voulu reprendre pied sur quelque chose de plus concret, disait-on, pour signifier de plus habituel. Les paroles méconnaissables sorties du masque que j'avais sous les yeux, c'était bien à l'écrivain que j'admirais qu'il fallait les rapporter. Elles n'auraient pas pu s'insérer dans ses livres à la façon d'un puzzle qui s'encadre entre d'autres. Elles étaient dans un autre plan et nécessitaient une transposition moyennant laquelle, un jour que je me répétais des phrases que j'avais entendu dire à Bergotte, j'y retrouvais toute l'armure de son style écrit, dont je pus reconnaître et nommer les différentes pièces dans ce discours parlé qui m'avait paru si différent. À un point de vue plus accessoire, la façon spéciale un peu trop minutieuse et intense qu'il avait de prononcer certains mots, certains adjectifs qui revenaient souvent dans sa conversation et qu'il ne disait pas sans une certaine emphase, faisant ressortir toutes leurs syllabes et chanter la dernière, comme pour le mot « visage », qu'il substituait toujours au mot « figure » et à qui il ajoutait un grand nombre de « v », d'« s », de « g », qui semblaient tous exploser de sa main ouverte à ces moments, correspondait exactement à la belle place où, dans sa prose, il mettait ses mots aimés en lumière, précédés d'une sorte de marge et composés de telle façon dans le nombre total de la phrase qu'on était obligé, sous peine de faire une faute de mesure, d'y faire compter toute leur quantité. Pourtant, on ne retrouvait pas dans le langage de Bergotte certains éclairages qui, dans ses livres, comme dans ceux de quelques autres auteurs, modifie souvent dans la phrase écrite l'apparence des mots. C'est sans doute qu'il vient de grande profondeur et n'amène pas ses rayons jusqu'à nos paroles dans les heures où, ouverts aux autres par la conversation, nous sommes dans une certaine mesure fermés à nous-mêmes. À cet égard, il y avait plus d'intonation, plus d'accent dans ses livres que dans ses propos. Accent indépendant de la beauté du style, que l'auteur lui-même n'a pas perçu, sans doute, car il n'est pas séparable de sa personnalité la plus intime. C'est cet accent qui, au moment où dans ses livres Bergotte était entièrement naturel, rythmait les mots, souvent alors fort insignifiants, qu'il écrivait. Cet accent n'est pas noté dans le texte, rien ne l'y indique, et pourtant il s'ajoute de lui-même aux phrases, on ne peut pas les dire autrement. Il est ce qu'il y avait de plus éphémère et pourtant de plus profond chez l'écrivain, et c'est cela qui portera témoignage sur sa nature, qui dira si, malgré toutes les duretés qu'il a exprimées, il était doux, malgré toutes les sensualités, sentimentales. Certaines particularités d'élocution qui existaient à l'état de faibles traces dans la conversation de Bergotte ne lui appartenaient pas en propre, car quand j'ai connu plus tard ses frères et ses sœurs, je les ai retrouvés chez eux bien plus accentués. C'était quelque chose de brusque et de rauque dans les derniers mots d'une phrase gaie, quelque chose d'affaibli et d'expirant à la fin d'une phrase triste. Swann, qui avait connu le maître quand il était enfant, m'a dit qu'alors on entendait chez lui, tout autant que chez ses frères et sœurs, ses inflexions en quelque sorte familiales, tour à tour cris de violente gaieté et murmures d'une lente mélancolie, et que dans la salle où ils jouaient tous ensemble, il faisait sa partie mieux qu'aucun dans leurs concerts successivement assourdissants et languides. Si particulier qu'il soit, tout ce bruit qui s'échappe des êtres est fugitif et ne leur survit pas. mais il n'en fut pas ainsi de la prononciation de la famille Bergotte. Car s'il est difficile de comprendre jamais, même dans les maîtres chanteurs, comment un artiste peut inventer la musique en écoutant gazouiller les oiseaux, pourtant Bergotte avait transposé, fixé dans sa prose, cette façon de traîner sur des mots qui se répètent en clameurs de joie ou qui s'égouttent en tristes soupirs. Il y a dans ses livres telle terminaison de phrases où l'accumulation des sonorités se prolonge, comme aux derniers accords d'une ouverture d'opéra qui ne peut pas finir et redit plusieurs fois sa suprême cadence avant que le chef d'orchestre pose son bâton, dans lesquels je retrouvais plus tard un équivalent musical de ces cuivres phonétiques de la famille Bergotte. Mais pour lui, à partir du moment où il les transporta dans ses livres, il cessa inconsciemment d'en user dans son discours. Du jour où il avait commencé d'écrire, et à plus forte raison, plus tard, quand je le connus, sa voix s'en était désorchestrée pour toujours. Ces jeunes Bergotte, le futur écrivain et ses frères et sœurs, n'étaient sans doute pas supérieurs, au contraire, à des jeunes gens plus fins, plus spirituels, qui trouvaient les Bergotte bien bruyants, voire un peu vulgaires, agaçants dans leurs plaisanteries qui caractérisaient le genre moitié prétentieux, moitié bêta de la maison. Mais le génie, même le grand talent, vient moins d'éléments intellectuels et d'affinement social supérieurs à ceux d'autrui que de la faculté de les transformer, de les transposer. Pour faire chauffer un liquide avec une lampe électrique, il ne s'agit pas d'avoir la plus forte lampe possible, mais une dont le courant puisse cesser d'éclairer, être dérivé et donné au lieu de lumière de la chaleur. Pour se promener dans les airs, il n'est pas nécessaire d'avoir l'automobile la plus puissante, mais une automobile qui, ne continuant pas de courir à terre et coupant d'une verticale la ligne qu'elle suivait, soit capable de convertir en force ascensionnelle sa vitesse horizontale. De même, ceux qui produisent des œuvres géniales ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la conversation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont eu le pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie, si médiocre d'ailleurs qu'elle pouvait être mondainement et même, dans un certain sens, intellectuellement parlant, s'y reflète, le génie consistant dans le pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle reflété. Le jour où le jeune Bergotte put montrer au monde de ses lecteurs le salon de mauvais goût où il avait passé son enfance et les causeries pas très drôles qu'il y tenait avec ses frères, ce jour-là, il monta plus haut que les amis de sa famille, plus spirituels et plus distingués. Ceux-ci, dans leur belle Rolls-Royce, pourraient rentrer chez eux en témoignant un peu de mépris pour la vulgarité des Bergotte. Mais lui, de son modeste appareil qui venait enfin de décoller, il les survolait. C'était, non plus avec des membres de sa famille, mais avec certains écrivains de son temps que d'autres traits de son élocution lui étaient communs. Deux plus jeunes qui commençaient à le renier et prétendaient n'avoir aucune parenté intellectuelle avec lui, la manifestaient sans le vouloir en employant les mêmes adverbes, les mêmes prépositions qu'il répétait sans cesse, en construisant les phrases de la même manière, en parlant sur le même ton amorti, ralenti, par réaction contre le langage éloquent et facile d'une génération précédente. Peut-être ces jeunes gens, on en verra qui était dans ce cas, n'avait-il pas connu Bergotte, mais sa façon de penser, inoculée en eux, y avait développé ces altérations de la syntaxe et de l'accent qui sont en relation nécessaire avec l'originalité intellectuelle. Relation qui demande à être interprétée d'ailleurs. Ainsi Bergotte, s'il ne devait rien à personne dans sa façon d'écrire, tenait sa façon de parler d'un de ses vieux camarades, merveilleux causeur dont il avait subi l'ascendant, qui l'imitait sans le vouloir dans la conversation, mais qui, lui, étant moins doué, n'avait jamais écrit de livre vraiment supérieur. De sorte que, si l'on s'en était tenu à l'originalité du débit, Bergotte eût été étiqueté disciple, écrivain de seconde main, Alors que, influencé par son ami dans le domaine de la causerie, il avait été original et créateur comme écrivain. Sans doute encore pour se séparer de la précédente génération, trop amie des abstractions, des grands lieux communs, quand Bergotte voulait dire du bien d'un livre, ce qu'il faisait valoir, ce qu'il citait, c'était toujours quelques scènes faisant image, quelques tableaux sans signification rationnelle. « Ah, si, disait-il, c'est bien, il y a une petite fille en châle orange, ah, c'est bien !» Ou encore, « Oh oui, il y a un passage où il y a un régiment qui traverse une ville. Ah oui, c'est bien !» Pour le style, il n'était pas tout à fait de son temps, et restait du reste fort exclusivement de son pays. Il détestait Tolstoï, George Eliot, Ibsen et Dostoïevski. Car le mot qui revenait toujours quand il voulait faire l'éloge d'un style, c'était le mot « doux ». Si j'aime tout de même mieux le Chateaubriand d'Atala que celui de Rancé, il me semble que c'est plus doux. Il disait ce mot-là comme un médecin à qui un malade assure que le lait lui fait mal à l'estomac et qui répond « c'est pourtant bien doux ». Et il est vrai qu'il y avait dans le style de Bergotte une sorte d'harmonie pareille à celle pour laquelle les anciens donnaient à certains de leurs orateurs des louanges dont nous concevons difficilement la nature, habitués que nous sommes à nos langues modernes où on ne cherche pas ce genre d'effet. Il disait aussi, avec un sourire timide, deux pages de lui pour lesquelles on lui déclarait son admiration, « Je crois que c'est assez vrai, c'est assez exact, cela peut être utile. » Mais simplement par modestie, comme une femme à qui on dit que sa robe ou sa fille est ravissante, répond pour la première « Elle est commode ». Pour la seconde, elle a bon caractère. Mais l'instinct du constructeur était trop profond chez Bergotte pour qu'il ignorât que la seule preuve qu'il avait bâtie utilement et selon la vérité résidait dans la joie que son œuvre lui avait donnée, à lui d'abord et aux autres ensuite. Seulement, bien des années plus tard, quand il n'eut plus de talent, chaque fois qu'il écrivait quelque chose dont il n'était pas content, pour ne pas l'effacer comme il aurait dû pour le publier, il se répéta à soi-même cette fois « Malgré tout, c'est assez exact, cela n'est pas inutile à mon pays. » De sorte que la phrase murmurée jadis devant ses admirateurs par une ruse de sa modestie, le fut à la fin dans le secret de son cœur par les inquiétudes de son orgueil. Et les mêmes mots qui avaient servi à Bergotte d'excuses superflues pour la valeur de ses premières œuvres lui devinrent comme une inefficace consolation de la médiocrité des dernières. Une espèce de sévérité de goût qu'il avait, de volonté de n'écrire jamais que des choses dont il pût dire « c'est doux » et qu'il avait fait passer tant d'années pour un artiste stérile, précieux, ciseleur de rien, était au contraire le secret de sa force, car l'habitude fait aussi bien le style de l'écrivain que le caractère de l'homme, et l'auteur qui s'est plusieurs fois contenté d'atteindre dans l'expression de sa pensée à un certain agrément, pose ainsi pour toujours les bornes de son talent, comme, en cédant souvent au plaisir, à la paresse, à la peur de souffrir, on dessine soi-même, sur un caractère où la retouche finit par n'être plus possible, la figure de ses vices et les limites de sa vertu. Si pourtant, malgré tant de correspondances que je perçus dans la suite entre l'écrivain et l'homme, je n'avais pas cru au premier moment chez Madame Swann que ce fût Bergotte, que ce fût l'auteur de tant de livres divins qui se trouva devant moi, peut-être n'avais-je pas eu absolument tort, car lui-même, au sens vrai du mot, ne le croyait pas non plus. Il ne le croyait pas puisqu'il montrait un grand empressement vers des gens du monde, sans être d'ailleurs snob, envers des gens de lettres, des journalistes qui lui étaient bien inférieurs. Certes, maintenant, il avait appris par le suffrage des autres qu'il avait du génie, à côté de quoi la situation dans le monde et les positions officielles ne sont rien. Il avait appris qu'il avait du génie, mais il ne le croyait pas puisqu'il continuait à simuler la déférence envers des écrivains médiocres pour arriver à être prochainement académicien, alors que l'Académie ou le Faubourg Saint-Germain n'ont pas plus à voir avec la part de l'Esprit éternel, laquelle est l'auteur des livres de Bergotte, qu'avec le principe de causalité ou l'idée de Dieu. Cela, il le savait aussi, comme un kleptomane sait inutilement qu'il est mal de voler. Et l'homme à barbiche et à nez en colimaçon avait des ruses de gentleman voleur de fourchette pour se rapprocher du fauteuil académique espéré, de telle duchesse qui disposait de plusieurs voix dans les élections, mais de s'en rapprocher en tâchant qu'aucune personne qui eût estimé que c'était un vice de poursuivre un pareil but pût voir son manège. Il n'y réussissait qu'à demi, on entendait alterner avec les propos du vrai Bergotte ceux du Bergotte égoïste, ambitieux et qui ne pensait qu'à parler de tels gens puissants, nobles ou riches, pour se faire valoir, lui qui, dans ses livres, quand il était vraiment lui-même, avait si bien montré, pur comme celui d'une source, le charme des pauvres. Quant à ces autres vices auxquels avait fait allusion M. de Norpois, à cet amour à demi incestueux qu'on disait même compliqué d'indélicatesse en matière d'argent, s'il contredisait d'une façon choquante la tendance de ses derniers romans, plein d'un souci si scrupuleux, si douloureux du bien, que les moindres joies de leur héros en étaient empoisonnées, et que pour le lecteur même il s'en dégageait un sentiment d'angoisse à travers lequel l'existence la plus douce semblait difficile à supporter, ces vices ne prouvaient pas cependant, à supposer qu'on les imputât justement à Bergotte, que sa littérature fût mensongère et tant de sensibilité de la comédie. De même qu'en pathologie, certains états d'apparence semblables sont dus les uns à un excès, d'autres à une insuffisance de tension, de sécrétion, etc., de même il peut y avoir vice par hypersensibilité comme il y a vice par manque de sensibilité. Peut-être n'est-ce que dans des vies réellement vicieuses que le problème moral peut se poser avec toute sa force d'anxiété. Et à ce problème, l'artiste donne une solution non pas dans le plan de sa vie individuelle, mais de ce qui est pour lui sa vraie vie, une solution générale, littéraire. Comme les grands docteurs de l'Église commencèrent souvent, tout en étant bons, par connaître les péchés de tous les hommes et en tirèrent leur sainteté personnelle, souvent les grands artistes, tout en étant mauvais, se servent de leurs vices pour arriver à concevoir la règle morale de tous. Ce sont les vices, ou seulement les faiblesses et les ridicules, du milieu où ils vivaient, les propos inconséquents, la vie frivole et choquante de leurs filles, les trahisons de leurs femmes ou leurs propres fautes, que les écrivains ont le plus souvent flétri dans leur diatribe sans changer pour cela le train de leur ménage ou le mauvais ton qui règne dans leur foyer. Mais ce contraste frappait moins autrefois qu'au temps de Bergotte, parce que d'une part, au fur et à mesure que se corrompait la société, les notions de moralité allaient s'épurant, et que d'autre part, le public s'était mis au courant, plus qu'il n'avait encore fait jusque-là, de la vie privée des écrivains. Et certains soirs au théâtre, on se montrait l'auteur que j'avais tant admiré à Combray, assis au fond d'une loge dont la seule composition semblait un commentaire singulièrement risible ou poignant, un impudent démenti de la thèse qu'il venait de soutenir dans sa dernière œuvre. Ce n'est pas ce que les uns ou les autres purent me dire qui me renseigna beaucoup sur la bonté ou la méchanceté de Bergotte. Tel de ses proches fournissait des preuves de sa dureté. Tel inconnu citait un trait, touchant car il avait été évidemment destiné à rester caché, de sa sensibilité profonde. Il avait agi cruellement avec sa femme, mais dans une auberge de village où il était venu passer la nuit, il était resté pour veiller une pauvresse qui avait tenté de se jeter à l'eau, et quand il avait été obligé de partir, il avait laissé beaucoup d'argent à l'aubergiste pour qu'il ne chassât pas cette malheureuse, et pour qu'il eût des attentions envers elle. Peut-être, plus le grand écrivain se développa en Bergotte aux dépens de l'homme à barbiche, plus sa vie individuelle se noya dans le flot de toutes les vies qu'il imaginait, et ne lui parut plus l'obliger à des devoirs effectifs, lesquels étaient remplacés pour lui par le devoir d'imaginer ses autres vies. Mais en même temps, parce qu'il imaginait les sentiments des autres aussi bien que s'ils avaient été les siens, quand l'occasion faisait qu'il avait à s'adresser à un malheureux, au moins d'une façon passagère, il le faisait en se plaçant non à son point de vue personnel, mais à celui même de l'être qui souffrait, point de vue d'où lui aurait fait horreur le langage de ceux qui continuent à penser à leurs petits intérêts devant la douleur d'autrui. De sorte qu'il a excité autour de lui des rancunes justifiées et des gratitudes ineffaçables. C'était surtout un homme qui, au fond, n'aimait vraiment que certaines images, et, comme une miniature au fond d'un coffret, que les composer et les peindre sous les mots. Pour un rien qu'on lui avait envoyé, si ce rien lui était l'occasion d'en entrelacer quelques-unes, il se montrait prodigue dans l'expression de sa reconnaissance, alors qu'il n'en témoignait aucune pour un riche présent. Et s'il avait eu à se défendre devant un tribunal, malgré lui, il aurait choisi ses paroles, non selon les faits qu'elles pouvaient produire sur le juge, mais en vue d'images que le juge n'aurait certainement pas aperçues.